Alphonse de Ligori, Préparation à la mort, troisième considération, brièveté de la vie. Qu'est-ce que votre vie? C'est une étape légère qui se dissipe en un instant. Premier point. Qu'est-ce que votre vie? Elle est semblable à une vapeur qu'un vent léger dissipe en un instant. Tous les hommes sont assurés qu'ils doivent mourir, mais l'erreur de plusieurs, c'est qu'ils envisagent la mort comme très éloignée, ou plutôt comme si elle ne devait jamais venir. Mais écoutons les paroles énergiques du saint homme Job sur la brièveté de la vie. L'homme, dit-il, vit peu de temps, semblable à une fleur qui, à peine éclose, est foulée aux pieds. Le Seigneur lui-même ordonna à son prophète de publier à haute voix cette importante vérité. « Criez, lui dit-il, criez, toute chair n'est que de l'herbe. Le peuple est vraiment de l'herbe. L'herbe se sèche et la fleur tombe. » La vie de l'homme peut bien être comparée à celle d'un brin d'herbe. La mort vient, l'herbe se sèche, alors finit la vie, alors tombe la fleur, c'est-à-dire les grandeurs et les biens du monde. La mort vient à nous avec plus de rapidité qu'un courrier, et nous marchons à sa rencontre dans tous les instants de notre vie. Chaque pas, chaque mouvement nous rapproche d'elle. Ce que j'écris, dit saint Jérôme, est autant de prix sur ma vie, c'est-à-dire le temps que j'emploie à écrire ces choses me pousse vers la mort. Nous mourrons tous et nous nous écoulons sur la terre comme des eaux qui ne reviennent plus. Voyez avec quelle rapidité ce ruisseau va se jeter dans la mer. Voyez ces eaux s'écouler pour ne plus revenir. C'est ainsi, mon frère, que vos jours s'écoulent. C'est ainsi que vous approchez de la mort. Les plaisirs du monde, ses pompes, ses louanges, ses applaudissements, tout passe. Et que reste-t-il? Un sépulcre. Nous serons jetés dans une fosse pour nous y consumer, dans un dépouillement absolu. À l'article de la mort, le souvenir des plaisirs dont il aura joui, des honneurs qu'il aura obtenus, ne fera qu'augmenter la peine et diminuer la confiance de ce misérable amateur du monde. Quoi, dira-t-il, ma maison, mes jardins, ces meubles de si bon goût, ces tableaux si précieux, tout cela ne sera bientôt plus à moi? Et que me resterait-il? Un sépulcre. Est-il, alors, un seul des biens du monde dont le souvenir n'afflige celui qui s'y est attaché? Et cette peine qu'il ressent ne fera que mettre son âme en un plus grand danger de se perdre? Une trop funeste expérience montre que les personnes qui furent si attachées au monde pendant leur vie ne veulent entendre parler au moment de la mort que des maux qu'elles endurent, des médecins habiles qu'elles pourraient consulter, des remèdes propres à leur procurer quelque soulagement. Si vous leur rappelez ce qu'elles doivent à leur âme, alors elles prennent un air chagrin et vous prient de les laisser en repos parce qu'elles ont mal à la tête et qu'elles ne peuvent entendre parler sans être fatiguées. Si, quelquefois, elles vous répondent, elles se troublent et ne savent que dire. Souvent, un confesseur leur donne l'absolution dans cet état, non parce qu'il est assuré de leur bonne disposition, mais parce qu'on ne saurait différer plus longtemps. Ainsi meurent ceux qui ne pensent point à la mort. Affections et prières. Ô mon Seigneur, Ô Dieu d'une infinie majesté, j'ai honte de paraître devant vous. Combien de fois vous ai-je fait l'injure de préférer à votre grâce un honteux plaisir, une misérable satisfaction, un peu de terre, un caprice, un rien. Je vous adore, ô mon Rédempteur. Je baise vos plaies sacrées, ces plaies que mes péchés vous ont faites, et desquelles, cependant, j'espère mon pardon et mon salut éternel. Faites-moi connaître, ô mon Jésus, combien je me suis montré coupable en vous abandonnant, vous qui êtes la source de tout bien, pour m'abreuver à des eaux bourbeuses et empoisonnées. Et que me reste-t-il de tant d'offenses? Que me reste-t-il des peines cruelles, des remords déchirants et des mérites pour l'enfer? Ô mon Père, ne m'abandonnez pas. Je ne mérite plus, il est vrai, cette grâce précieuse qui me donne la qualité de votre enfant. Mais vous êtes mort pour me pardonner. Mais vous avez dit, convertissez-vous à moi et je me convertirai à vous. Je renonce à toutes mes satisfactions. Je renonce à tous les plaisirs que le monde pourrait me procurer, et je me donne tout entier à vous. Je vous en conjure, par le sang que vous avez versé pour moi sur la croix, pardonnez-moi maintenant que je me repens de tout mon cœur des outrages que je vous ai faits. Oui, je me repens, je vous aime par-dessus tout. Je ne suis plus digne, il est vrai, de vous aimer. Mais vous méritez que je vous aime. Recevez-moi donc au nombre de vos amis et ne rejetez pas l'amour d'un cœur qui n'a eu si longtemps que du mépris pour vous. Si vous ne m'avez pas frappé de mort pendant que j'étais dans votre disgrâce, c'est que vous vouliez que je vous aimasse. Je veux donc vous aimer pendant le temps que j'ai encore à vivre et je ne veux aimer que vous seul. Venez à mon secours et accordez-moi la persévérance et l'amour. Ô Marie, ô mon refuge, intercédez pour moi auprès de votre Fils. Second point. Dans l'amertume de son cœur, le roi Ézéchias s'écriait : le tissu de ma vie a été tranché comme la trame par le tisserand. Il a été tranché alors que je ne faisais que le commencer. Oh, combien, lorsqu'ils ont ainsi occupé à ourdir leur trame, c'est-à-dire lorsqu'ils se préparent à exécuter ces projets si heureusement conçus, sont surpris de la mort qui vient la couper et met fin à tout. À la lueur de ce dernier flambeau, applaudissements, plaisirs, pompes et grandeurs du monde, tout s'évanouit. Grand secret de la mort, elle nous fait voir ce que ne voient pas les amateurs du monde. Les fortunes les plus brillantes, les postes les plus honorables, les triomphes les plus magnifiques perdent tout leur éclat lorsqu'on les envisage du lit de la mort. L'idée imaginaire que nous nous étions formés du bonheur se change en un profond mépris pour notre propre folie. La mort, de son ombre noire, obscurcit toutes les dignités, celle même des rois. Les passions nous donnent maintenant une fausse idée des biens de ce monde. Mais la mort nous les montre tels qu'ils sont en effet, c'est-à-dire fumier, fange, vanité et misère. Ô Dieu, à quoi servent à la mort les richesses, les principautés, les trônes, à la mort, lorsqu'il ne nous faut plus que quatre planches et un linceul pour couvrir notre corps? À quoi servent les honneurs lorsque nous n'avons plus à espérer qu'un cortège funèbre et de magnifiques obsèques qui ne serviront de rien à notre âme si elle est perdue? À quoi sert la beauté du corps si ce corps même n'est qu'un amas de pourriture et de vers, et après un peu de poussière exhalant une odeur fétide. Je suis devenue, dit Job, la fable du peuple. J'ai été à ses yeux comme un exemple. Ce riche, ce ministre, ce général mourra. Partout il sera parlé de lui. S'il a mal vécu, il deviendra la fable du peuple et un exemple de la vanité des choses du monde. Il servira à l'amendement des autres et son cadavre demeurera confondu avec les cadavres des pauvres. À quoi lui servira cette beauté qu'on admirait en lui s'il n'est plus qu'un amas de corruption? À quoi bon cette autorité dont il était si jaloux si son corps est jeté dans une fosse pour y pourrir et son âme dans les enfers pour y brûler éternellement? Oh, qu'il est malheureux de servir de sujet aux autres pour faire ses réflexions et de ne les avoir point faites soi-même pour en profiter. Demeurons donc bien persuadés que le temps propre pour remédier aux maux de la conscience, c'est le temps de la vie et non celui de la mort. Faisons maintenant ce que nous voudrions avoir fait alors. Le temps est court, tout passe, tout finit. Faisons en sorte que tout nous soit utile pour acquérir la bienheureuse éternité. Affections et prières. Ô Dieu de mon âme, ô bonté infinie, ayez pitié de moi qui vous ai tant offensé. Malheureux que j'ai été, je savais qu'en commettant le péché, je perdais votre grâce, je le savais, et j'ai consenti à la perdre. Dites-moi, je vous prie, ce qu'il me faut faire pour la recouvrer. Si vous voulez que je me repente de mes fautes, je m'en repens de tout mon cœur, et je voudrais mourir de douleur de les avoir commises. Si vous voulez que j'espère encore mon pardon de votre bonté, je l'espère par les mérites de ce sang précieux que vous avez répandu sur la croix. Si vous voulez que je vous aime par-dessus toute chose, je quitte tout. Je renonce à tous les avantages, à tous les plaisirs que le monde pourrait me procurer. Et je vous aime de tout mon cœur. Ô mon aimable Sauveur, si vous voulez enfin que je vous demande quelque grâce, eh bien, donnez-moi celle de ne plus vous offenser. Donnez-moi votre amour et faites ensuite de moi ce que vous voudrez. Ô Marie, mon espérance, j'attends ces nouvelles faveurs de votre puissante intercession. Troisième point. Quelle folie n'est-ce donc pas de s'exposer pour jouir des misérables plaisirs de cette vie, au malheur irréparable de faire une mauvaise mort et de commencer par elle une éternité malheureuse. Oh, combien vaut ce dernier moment, ce dernier soupir, cette dernière scène de la vie, une éternité dans les plaisirs les plus purs ou les tourments les plus cruels, une vie éternellement heureuse ou éternellement malheureuse. Pensons souvent que Jésus-Christ a voulu mourir d'une mort si ignominieuse et si cruelle pour nous mériter la grâce d'une bonne mort, et que s'il fait entendre si souvent sa voix à nos cœurs, s'il nous donne tant de lumière, s'il fait retentir à nos oreilles les menaces les plus terribles, c'est qu'il veut que nous nous mettions en état de mourir dans la grâce de Dieu. Le philosophe Antisthène interrogé quel était à son avis le plus grand bonheur que l'homme pouvait espérer en ce monde, répondit « C'est une bonne mort ». Si c'est là le langage d'un païen, que dirait un chrétien à qui la foi enseigne que dès ce moment commence l'éternité et qu'alors sera irrévocablement décidé qu'il sera heureux ou malheureux à jamais? si l'on enfermait dans une urne de deux billets, sur l'un desquels serait écrit le mot « enfer », sur l'autre « paradis », et que votre sort dépendait du choix que vous feriez, quel soin, quelle attention n'apporteriez-vous pas pour choisir le paradis? De quels tremblements ne sont pas surpris les malheureux condamnés à jouer leur vie lorsqu'ils jettent les dés dont la chance, heureuse ou malheureuse, doit leur accorder la vie ou leur donner la mort? Quelle sera votre épouvante lorsque vous toucherez à vos derniers moments, lorsque vous direz « De cet instant dépend ma vie ou ma mort éternelle. Je vais être heureux ou malheureux pour jamais. » Saint Bernardin de Sienne rapporte d'un prince que, pénétré de la crainte la plus vive, il disait à ses derniers moments « Je possède une grande étendue de pays. J'ai un grand nombre de palais. Et voici que, si je meurs cette nuit, je ne sais quelle sera ma demeure, et cette demeure sera éternelle. » Si vous croyez que vous devez mourir, si vous croyez à une éternité après la mort, si vous croyez enfin qu'on ne meurt qu'une fois, et que si on a le malheur de faire une mauvaise mort, ce malheur est irréparable, pourquoi, mon frère, ne prenez-vous pas dès ce moment la résolution de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous disposer par une bonne mort? André d'Avellino disait en tremblant « Qui sait quel sera mon toit dans l'autre vie? Qui sait si je serai sauvé ou si je serai damné ?» Saint-Louis Belsando ne pouvait se livrer au sommeil, continuellement éveillé par cette pensée. « Qui sait si tu ne seras pas damné ?» Quoi ? Des saints ont tremblé. Et vous qui êtes coupable de tant de péchés, vous ne tremblez pas ? Hâtez-vous de mettre la main à l'œuvre. Prenez la résolution de vous donner sincèrement à Dieu. Et commencez une vie qui soit pour vous, à l'article de la mort, un juste sujet de consolation et non de trouble et d'angoisse. Livrez-vous à l'exercice de la prière, fréquentez les sacrements, fuyez les occasions du péché et, s'il faut, quittez le monde. Assurez votre salut à quelque prix que ce soit et souvenez-vous qu'il n'est pas de sacrifice que vous ne deviez faire pour sauver votre âme. Affections et prières. Ô mon Jésus, mon cher Sauveur, quelle obligation ne vous ai-je pas? Comment avez-vous pu accorder tant de grades à un ingrat, à un traître tel que moi? Vous m'avez créé, et en me créant, vous avez prévu l'injure que je devais vous faire. Vous m'avez racheté en mourant pour moi, et en me rachetant, vous avez prévu l'ingratitude dont je paierai vos bontés. Je vins au monde souillé de la tache du péché originel. J'étais à vos yeux comme un vil animal. J'étais mort, et vous m'avez rendu la vie de la grâce. J'étais aveugle, et vous m'avez éclairé. Je vous avais perdu, et vous m'avez fait la grâce de vous retrouver. J'étais votre ennemi et vous m'avez reçu au nombre de vos amis. Ô Dieu de miséricorde, faites-moi bien connaître tout ce que vous avez fait pour moi. Faites que je pleure les fautes dont je me suis rendu coupable envers vous. Vengez-vous de moi en me faisant concevoir une extrême douleur de mes péchés. Mais ne me punissez pas en me privant de votre grâce et de votre amour. Père éternel, je hais et je déteste souverainement l'injure que je vous ai faite. Ayez pitié de moi par amour pour Jésus-Christ. Voyez votre cher Fils mort sur la croix pour mes péchés. Que son sang retombe sur moi et lavez les taches de mon âme. Ô roi de mon cœur, que votre règne arrive. Je ne veux plus avoir d'autre affection que pour vous. Je vous aime souverainement. Venez régner seul en mon âme. Faites que je vous aime uniquement. Je désire tout faire pour vous plaire. Je veux vous servir pendant le temps que j'ai encore à vivre sur la terre. Bénissez cette résolution, ô mon Père, et donnez-moi la grâce de vous demeurer toujours unis. Je vous consacre toutes mes affections et ne veux plus désormais appartenir à un autre qu'à vous, qui êtes mon trésor, ma paix, mon espérance, mon amour, mon tout. J'espère tout de vous par les mérites de votre divin Fils. Ô Marie, ma mère et ma reine, aidez-moi de votre puissante intercession. Mère de Dieu, priez pour moi.